De retour sur Bac FM 106.1, merci d'être avec nous. Vous connaissez la musique, c'est mercredi, nouveau film de l'acné que votre spécialiste ciné préféré est venu vous présenter. Bonjour Michel Petit-Fontanel.
Bonjour à vous.
Je rappelle que vous êtes secrétaire adjointe qui coordonne la programmation pour l'acné, cette association qui diffuse du cinéma indépendant. De nouveaux films cette semaine pour l'acné, et ça commence donc dès demain, jeudi 11 décembre, avec L'Inconnu de la Grande Arche, un film de Stéphane Demoustier.
Alors, en cette dernière semaine, parce que nous allons arrêter le mardi 16-12, le cinéma Mazarin ne souhaite pas que nous ayons des films au moment des fêtes, parce qu'il y a beaucoup de dessins animés, de films pour les familles et les enfants. Donc on termine par deux films, dont un français, L'Inconnu de la Grande Arche, de Stéphane Demoustier. Ce film réalisé par un réalisateur connu qui a fait Borgo en 2023, La fille au bracelet en 2019. Là, il nous replonge dans l'histoire de la France. Il est porté par un casting de choix. En 83, François Mitterrand décide de lancer un concours d'architecture international pour le projet phare de la présidence, la Grande Arche de la Défense. À la surprise générale, Otto von Springzen, architecte danois, remporte le concours. Si l'architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu'il l'a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique. Les petites victoires et les inévitables désillusions se suivent comme des péripéties d'un thriller acéré.
Donc ça sera dès demain, jeudi à 13h45, dimanche à 20h, lundi à 13h45 et mardi de nouveau à 20h.
Monsieur le Président de la République.
Alors, qu'en pensez-vous?
C'est très beau. Qui en est l'architecte, Monsieur le Président?
Vous demandez à Subilon pour le savoir.
Monsieur, vous avez remporté le concours de la Défense.
Boum. Qu'avez-vous construit dans votre carrière?
Ma maison et 4 églises.
Le président veut que nous inaugurions en même temps que le bicentenaire, ce qui nous force à aller vite. Alors allons vite et faisons bien.
C'est tout à fait concluant.
Boone a vurderé 1,3 milliard.
Subilon est l'homme des maisons.
C'est son valet.
Subilon m'a informé que vous travaillez avec André.
Je suis très heureux de rencontrer l'homme qui a mis d'accord toute une profession.
Quand j'ai conçu Roissy, j'avais 29 ans. Plus d'une fois, je me suis demandé si j'étais pas un imposteur.
Et que pensez-vous des architectes français?
Je le trouve inhibé. Je veux des nuages qui flottent.
Je vous avais indiqué que c'était impossible.
On a toujours le choix.
If you keep the current configuration, you will be locked into a balance of power that will always be unfavorable to you.
My presence here is no longer needed.
If it's urgent, just take your time.
Mitterrand est mon client et je respecte toujours mon client.
Arrêtez de vous réfugier derrière le président.
You're stealing my cue.
I'm trying to save
you. No, you're
your
not.
Cue.
Je dois parler avec monsieur le président.
Ce serait omringet af idioter og gangster og svindlere.
Le cube, c'est l'œuvre de ma vie.
Deuxième et dernier film pour cette programmation de cette semaine, du côté de l'acné, The Cord of Life, la corde de la vie pour nos amis non anglophones, de Xizhou Zhao, un film chinois, comme vous avez pu l'entendre au nom du réalisateur.
Alors, nous allons finir dans les steppes mongoles, avec un jeune musicien urbain qui retourne dans sa terre natale pour accompagner sa mère atteinte de la maladie d'Alzheimer. Commence un voyage à deux à la recherche d'un arbre mythique lié à la mémoire et à l'identité. Ce film qui tient principalement à la force de son récit, chargé de symbolisme et qui transmet le vécu des personnes mongoles dans la Chine contemporaine. Scénariste de plusieurs films, La distance avec la lune, Le cavalier des rêves, la cinéaste a donc réfléchi à cette idée autour de l'inversion des rapports parents-enfants en raison de la vieillesse. Le film a obtenu le prix de la meilleure technique au 4e Festival international du film de Hainan en 2022.
Cette semaine, vous avez donc le choix entre François Mitterrand et les steppes mongoles, comme c'est original. Vous vouliez nous parler également du festival Télérama, qui aura lieu en janvier.
Donc, nous nous retrouverons l'année prochaine, en 2026, avec un temps très fort, à savoir le festival Télérama, du mercredi 21 janvier au 28 janvier. Télérama propose des films qui ont très bien marché, les meilleurs films de l'année. C'est nous qui choisirons parmi toutes leurs listes avec le ciné Mazarin. Vous pourrez revoir 8 films, 7 ou 8 films qui ont très bien marché, plus en général 2 avant-premières et un film pour la jeunesse.
Voilà, on salue au passage nos confrères de chez Télérama. Merci Michel Petit-Fontanelle d'être venu présenter les films de l'acné. On se retrouvera sans doute à la rentrée pour présenter de nouveaux films. Pour vous, chers auditeurs, CDLP continue dès maintenant. On va parler culture geek, c'est parti. Vous le savez peut-être, mais mon truc, c'est la culture et plus particulièrement le cinéma. Mais plus généralement, j'ai un affect pour la pop culture, jeux vidéo, comics et j'en passe et des meilleurs. Mon invité du jour est un expert en la matière puisqu'il tient une boutique en l'honneur de la culture geek. Aujourd'hui, j'ai donc la chance de recevoir Sam Rowe, gérant de la boutique éphémère Green Shop Geek, rue Saint-Etienne. Merci d'être avec nous sur VKFM.
Merci à vous.
Pour que les auditeurs visualisent bien, c'est quoi exactement Green Shop Geek ?
C'est une boutique qui va vendre du multimédia d'occasion, mais exclusivement des années 70, 80 et 90.
Donc on s'arrête fin 90 ?
Voilà, tout à fait. Tout ce qui est après 2000, ça sera à la Fnac.
Et c'est uniquement de l'occasion ?
Exactement, ouais.
Donc tu vois ça, toi, comme une boutique éphémère, un dépôt vente, une caverne d'Ali Baba, comment tu le présenterais, toi ?
Ouais, je dirais une boutique aussi à souvenirs, parce que là, j'ai une semaine de recul sur le magasin, et toutes les personnes qui sont passées, le moindre objet, que ce soit du jeu, du jouet, du DVD, des films, ça leur évoque des souvenirs, donc ça permet de partager leurs souvenirs, les miens... ceux qu'on a en commun et les années de nos enfances, quoi, de notre génération.
C'est aussi une boutique de la nostalgie.
Voilà, tout à fait.
Tu es donc rue Saint-Étienne. Voilà. C'était un choix de ta part ? Comment ça s'est passé ?
C'est pas un choix, c'est en fait je suis chez moi.
C'est dans ton propre...
Donc à l'époque, je tenais un magasin de musique à la place.
D'accord, ok, donc c'est chez toi, finalement.
C'est converti, quoi.
Ok, et la musique, c'est un truc que tu vends encore ou c'est vraiment...
Non, je le fais vraiment... professionnellement, j'ai arrêté de vendre. Je faisais des réparations de guitare, des choses comme ça, mais je ne fais plus. Je me consacre à la geekerie.
À la geekerie, quel joli mot. D'où vient cette idée de monter une boutique autour de la culture geek ?
En fait, l'idée, elle est là depuis un moment, puisque moi, je fais beaucoup de broc, de salons geek, des choses comme ça. Donc... soit je vends ou soit j'y vais en tant qu'acheteur. Et voilà, donc en faisant tous ces salons, ces choses comme ça, j'ai accumulé beaucoup de stocks. Hein, et puis j'ai une grosse collection personnelle. Donc voilà, je me suis dit, tiens, décembre, j'avais un mois à tuer et c'était l'occasion de pouvoir mettre ça en place, quoi. Après, l'idée, ça serait plutôt d'évoluer sur un magasin qui va être ouvert ponctuellement les week-ends. Et puis la semaine, j'irai travailler sur mon deuxième travail. donc là, c'est éphémère jusqu'au 24 décembre. Mais après, je compte ouvrir les week-ends et faire surtout des événements. Ça, c'est l'objectif.
Quel genre d'événement ?
De l'événement salon geek.
Oui.
Autour de la pop culture, des films, peut-être... on est en pourparlers avec des assos, des choses comme ça.
C'est un truc qui manque, ça, la culture geek à 9h, tu trouves ?
Ouais, il y a pas mal de collectionneurs et pas mal d'associations aussi autour du jeu vidéo, des choses comme ça.
Concrètement, quand on pousse la porte de la boutique, on tombe sur quoi ? Donc tu disais jeux vidéo, DVD, Blu-ray, j'ai cru voir quand j'ai moi-même fait la visite.
Ouais, du comics. En fait, c'est du multimédia, moi j'appelle ça. Donc vous avez du DVD, du jeu vidéo, de la figurine, du jouet ancien, du comics, de la BD, un petit peu de vinyle et de CD.
Donc, en fait, ce que tu vends, c'est ce que tu as toi-même racheté auparavant.
Voilà, tout à fait.
Ok, ce qui permet d'avoir un peu de tout, donc.
Voilà, tout à fait.
Concrètement, sur justement cet achat-revente, ça veut dire que tu passes ton temps à chiner, à traîner sur eBay ou sur Le Bon Coin pour trouver des choses ?
Voilà, ou je fais aussi du vide-maison aussi.
Des vide-maisons. On trouve encore des choses, des trésors perdus au milieu des vieilles assiettes.
Ouais, ça arrive. Pas toujours, mais ça arrive.
Tu travailles beaucoup sur les années 80-90, les vieilles consoles, les licences cultes.
Exactement.
Qu'est-ce qui te plaît dans cette période-là ?
Ben, ce qui me plaît, c'est les jeux de, on va dire, d'un autre temps qui était le mien. C'était surtout qu'on allumait la console, on appuyait start et on jouait tout de suite, quoi. Les jeux étaient beaucoup plus donc durs, mais on va dire plus plug and play, quoi. On pouvait faire des parties rapides à plusieurs. C'est sûr qu'aujourd'hui, bon, ben, on allume une console, il y a des mises à jour. Les jeux sont pas toujours finis, il faut re-télécharger derrière.
Ils font 80 gigas.
Voilà, moi ça m'a un petit peu perdu tout ça. Et justement, en rejoignant aux jeux d'enfance, bon ben, on s'aperçoit que c'est des jeux où on s'amuse encore. Et bon, après, je cache pas que s'il y a pas un bout de nostalgie, des fois ça pique les yeux. Je comprends que les générations préfèrent leurs jeux, mais voilà, s'il y a un petit peu de nostalgie avec, c'est des jeux où au jour d'aujourd'hui, on s'amuse vraiment, même avec les enfants. Hein. Je veux dire, Mario Kart, des jeux comme ça, ça plaît toujours.
Toi, à titre perso, tu joues surtout à des vieux jeux ou tu joues encore quand même un peu du moderne ?
Ben, peu de moderne, non. Je vais jouer un peu à la Switch avec mon fils, mais non, moi, je vais surtout jouer à Super Nintendo, à la Game Boy, à des jeux vraiment qui m'ont touché mon enfance.
Il y a des trucs qui te manquent quand même dans ces vieux jeux-là, genre les sauvegardes automatiques par exemple, ou des trucs modernes qu'on aime bien quoi, quand on est joueur.
Pour la sauvegarde automatique ? Oui, il y en avait qui avaient des sauvegardes, d'autres non. Hein, parce que vous prenez la NES, première génération de la console Nintendo, il n'y avait pas beaucoup de jeux avec des sauvegardes.
Aujourd'hui, pour revenir sur la boutique, ouais. Est-ce qu'il y a un profil qui vient ? Est-ce que c'est surtout des quadragénaires nostalgiques qui viennent retrouver leurs souvenirs d'enfance ? Ou est-ce que tu vois aussi des ados qui découvrent ces objets ?
Pas forcément, j'ai eu beaucoup de jeunes. On va dire j'ai eu des 18-25 ans et eux sont pas mal sur les films, les vieux films d'horreur, les choses comme ça. Ils aiment bien redécouvrir. Et puis la plupart connaissent parce que bon, les parents forcément ont dû montrer leurs dessins animés, leurs films de leur enfance. Donc eux sont touchés et puis ils se retrouvent aussi. Puis bon, faut dire aussi qu'il y a beaucoup de nos licences des années 80 qui sont encore au goût du jour, qui ressortent, qui sont...
Qui ont des énièmes suites, je pense à SOS Fantôme par exemple.
Voilà, par exemple, oui, exactement. Donc voilà, c'est pas des licences qui sont, oubliées. Hein. Elles sont encore présentes au cinéma, des choses comme ça. Donc c'est que ça prouve bien que c'était une époque qui a bien explosé et qui a marqué une époque et une génération.
Question un peu difficile peut-être, mais est-ce que tu as un objet préféré, un objet vraiment où tu as un petit attachement personnel que tu trouves vraiment cool dans la boutique ou peut-être justement parce que du coup tu le vends pas si vraiment t'y tiens, je sais pas s'il y a un truc comme ça.
On va dire ce que je suis plus attaché, c'est la Game Boy.
Ok, la première du nom du coup, pas la Game Boy Color.
Ouais, la première, la fat comme on dit, la grosse. Et celle-là, elle a vraiment marqué mon enfance et... Et ouais, j'ai beaucoup d'affect sur cette console. Puis en tant qu'objet, ouais, ça représente bien une époque, quoi, la Game Boy. C'est un peu comme le Walkman, et elle a marqué son temps, quoi.
Là, ça me fait penser à une web-série sur YouTube qui s'appelle Rétro Découverte, où des acteurs présentent des vieux jeux, et un de ces personnages dans cette série est accro de façon exponentielle à la Game Boy. Je sais pas si tu vois la ref, mais est-ce que toi, t'as un jeu préféré sur cette console ?
Oui, bah, j'en ai plusieurs, mais mon préféré c'est Gargoyles.
Ok, tu peux un peu le présenter peut-être pour les gens qui...
Gargoyles c'est un petit semi-RPG, semi-plateforme, et c'est le personnage, c'est le diable dans Ghouls and Ghosts, un jeu d'arcade où on incarnait le prince Arthur. Et c'est assez connu pour ceux qui traînaient dans les arcades dans les années 90. Et voilà, donc c'est un personnage issu de Ghouls and Ghosts qui avait atterri sur Game Boy avec un jeu, on n'avait pas trop l'habitude d'avoir un RPG plateforme. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup.
Je voulais avoir ton avis également sur le rétro gaming de façon générale. On sait que les prix explosent un petit peu comme les cartes Pokémon par exemple qui ont pris beaucoup de valeur ces dernières années. Toi, comment tu te places par rapport au rétro gaming ? Est-ce que c'est quelque chose que tu collectionnes ? Est-ce que tu critiques un peu cette montée des prix ?
Ce que je vais critiquer, c'est pas forcément, c'est plutôt les spéculateurs. Effectivement, il y en a beaucoup qui rachètent pour revendre très cher. Mais on va dire que dans l'ensemble, la communauté, on va dire les joueurs, pas les collectionneurs, eux, on est quand même une communauté à se tenir sur des prix. Mais c'est sûr que sur Internet, sur eBay, sur Vinted, en termes de prix, on voit de tout. Hein. C'est sûr que c'est très cher. Maintenant, le jeu rétro...
Il y a des vieilles consoles qui partent pour des milliers d'euros.
Tout le monde collectionne, quoi. Je veux dire, ça touchait, au début, ça touchait vraiment, les quarantenaires, cinquantenaires comme nous. Et puis, dans les années 2000, on s'est mis à racheter un petit peu tout ça. Et puis, 20 ans après, avec effectivement les chaînes YouTube, tous ceux qui ont recensé un petit peu et qui ont fait découvrir toute cette génération de consoles, on a eu des jeunes qui se sont mis à collectionner, donc c'est vrai que on a moins trois générations qui collectionnent le même produit, quoi.
Ça a fait
dans le jouet, on va être plus on n'a pas trop ce phénomène-là. Je veux dire, les jeunes de 18-25 ans vont pas collectionner par exemple du Goldorak, des choses comme ça. Que le jeu rétro, oui, le jeu rétro, voilà, on a vraiment trois générations qui collectionnent, donc effectivement, sur l'offre et la demande, elle est énorme, quoi.
Je pense que tout le monde connaît le joueur du grenier aujourd'hui, et il disait dans une de ses vidéos de façon humoristique que les figurines Tortue Ninja, déjà à l'époque, coûtaient environ un bras et deux reins. C'est toujours le cas aujourd'hui, les vieilles figurines comme ça de dessin animé coûtent toujours très cher.
Ça peut, oui. Après, ce qui va faire monter les prix, c'est surtout quand elles sont conservées avec les armes, la peinture nickel,
la
ou
boîte.
Encore mieux, sous blister, dans l'état neuf, quoi. Donc là, effectivement, on attrape des prix qui sont très chers.
Le mot green,
on arrive à trouver des vieilles Tortues Ninja, après, avec les armes perdues, un petit peu, mais on arrive à les trouver vraiment pas chers.
Ouais, ça dépend vraiment dans quel état est l'objet, quoi.
Exactement, ouais. Un peu comme le jeu rétro, hein, sur les boîtes Super Nintendo, Game Boy ou NES, c'était des boîtes en carton, donc effectivement, l'état va faire jouer le prix du simple au double, des fois. Hein.
Le mot green est justement dans le nom de ta boutique. Il y a cette idée de faire vivre plus longtemps les objets, de ne pas les jeter. Est-ce que tu vois ça comme une forme d'écologie de la pop culture ?
Oui. Une sorte, effectivement, de donner une seconde vie aux objets.
Pour terminer cette émission, moi j'aime bien rappeler un peu le côté pratique. Du coup, tu te trouves au 17 rue Saint-Étienne, si je dis pas de bêtises ?
Tout à fait.
Voilà, et t'es ouvert jusqu'à quand ?
Je suis ouvert jusqu'au 24 au soir.
Voilà. Et de quelle heure à quelle heure pour que les gens puissent s'y rendre ?
Donc, du mardi au samedi, de 10h à 19h. Donc je fais une heure de fermeture le midi de 12h30 à 13h30.
Oui.
Et le vendredi et samedi, je fais une journée continue, 10h-19h.
Ok. Eh ben waouh, ça en fait du travail. Merci beaucoup Sam d'avoir été avec nous sur Break FM.
Merci beaucoup.
Je rappelle que ta boutique éphémère Green Shop Geek, cette fois je ne me trompe pas, est installée rue Saint-Etienne à Nevers, avec BD, jeux vidéo, Blu-ray, DVD, figurines et plein de trésors des années 80-90 à découvrir pendant toute la période des fêtes. Merci à vous aussi chers auditeurs d'avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve dès demain 13h pour un nouveau numéro de C'est dans les parages sur Break FM 106.1. Ne touchez à rien, la musique continue sur Break FM.